64. Petit Pierre est à Plouerzel, qui essaie de jouer devant la porte de sa grand-mère, tout dépaysé en regardant là-bas cette nappe d'eau immobile, avec cette grande forme de bête qui semble dormir au milieu, derrière un voile de brume. On est bien au grand air ici, mais le vent y est plus âpre qu'à Toulven, la campagne plus désolée, et les enfants sentent tout cela d'instinct. En présence des tristesses des choses, ils ont des mélancolies et des silences involontaires, comme les petits oiseaux. Voilà bien deux petits camarades qui arrivent d'une chaumière voisine pour le voir, lui, le nouveau venu. Mais ce ne sont plus ceux de Toulven, ceux-ci. Ils ne connaissent pas les mêmes jeux. Les quelques petits mots qu'ils savent dire ne sont plus du même breton. Alors, n'osant pas trop ni les uns ni les autres, ils sont là tous trois qui s'observent, avec des petits sourires, avec des petites mines comiques. C'est hier que Petit Pierre est arrivé à Plouerzel avec Marie Kermadec. Yves a écrit à sa femme de faire bien vite ce voyage. Une idée lui est venue tout d'un coup, un espoir, que cela les réconcilierait peut-être avec sa mère. C'est que la vieille femme, toujours dure et volontaire, après avoir d'abord refusé net son consentement à leur mariage, ne l'a donné ensuite que de mauvaise grâce, et depuis ne veut plus seulement faire réponse à leurs lettres. Pauvre vieille délaissée. De 13 enfants que Dieu lui avait donnés, 3 sont morts tout petits. Sur 8 garçons qui ont grandi, tous marins, la mère lui en a pris 7. 7 qui ont disparu dans des naufrages, ou bien qui ont passé à l'étranger, comme Gilda et Goulven. Ses filles, mariées, dispersées. Des 2 plus jeunes, qui demeuraient au logis, l'une a épousé un Islandais, qui l'a emmené à Tréguier. L'autre, la tête tournée de religion, s'est mise en l'esprit d'entrer au couvent des dames de Saint-Gilda-du-Secours. Restait la toute petite, l'enfant abandonné de Goulven. Ah, elle s'était mise à la chérir, celle-là. Une fille naturelle, cependant. Mais la dernière épave de ce long naufrage qui lui avait emporté l'un après l'autre tous les autres. La petite aimait aller regarder la marée monter au bord du lac d'eau marine. On le lui avait défendu, pourtant. Mais un jour, elle y était allée toute seule, et on ne l'a plus vue revenir. La marée suivante a rapporté un petit cadavre raidi, une petite fille de cire blanche, qu'on a couchée près de la chapelle, sous une croix de bois et une bosse de gazon vert. Elle avait encore un espoir en son fils Yves, le dernier, le plus chéri, parce qu'il était resté le plus longtemps au foyer. Peut-être au moins celui-là reviendrait-il quelque jour habiter près d'elle. Mais non, cette Marie Kérémenen le lui avait pris. Et en même temps, chose qui comptait aussi dans sa rancune, elle lui avait enlevé l'argent que ce fils lui envoyait autrefois pour l'aider à vivre. Et depuis 2 ans, elle était seule, toute seule, jusqu'à son dernier jour. Pour obéir à Yves, Marie est venue hier, après 2 journées de voyage, frappée à cette porte avec son enfant. Une vieille femme, aux traits durs, qu'elle a reconnue tout de suite sans jamais l'avoir vue, est venue lui ouvrir. « Je suis Marie, la femme d'Yves. Bonjour, ma mère. » « La femme d'Yves, la femme d'Yves. Et alors, c'est donc le petit Pierre, celui-ci. C'est donc mon petit-fils. » Tout de même, son œil s'était adouci en regardant ce petit-fils. Elle les avait fait entrer, bien manger, bien se chauffer, et leur avait préparé son meilleur lit. Mais, c'est égal, c'était toujours un froid, une glace que rien ne pouvait fondre. Dans les coins, en se cachant, la grand-mère embrassait son petit-fils avec amour. Mais devant Marie, jamais, toujours raide, revêche. Quelquefois, on causait d'Yves, et Marie disait timidement que depuis leur mariage, ils se corrigeaient beaucoup. « Tra-la-la-la ! » « Se corriger, » répétait la vieille mère, en prenant son air mauvais. « Tra-la-la-la-la, ma fille, se corriger. C'est la tête de son père, c'est la même chose, c'est tout pareil. Et vous n'avez pas fini d'en voir avec lui, moi je vous le dis. » Alors la pauvre Marie, le cœur gros, ne sachant plus que répondre, ni que dire tout le long du jour, ni que faire d'elle-même, attendait avec impatience le temps fixé par Yves pour repartir. Et bien sûr, elle ne reviendrait plus. 65. Au sortir de Paimpol, Marie est remontée avec son fils dans la diligence qui s'ébranle et les emmène. Par la portière, elle regarde sa belle-mère, qui est tout de même venue de Plouerzel les conduire jusqu'à la ville, mais qui leur a dit un bonjour glacial, un bonjour bref à faire mal au cœur. Elle la regarde et elle ne comprend plus. La voilà qui court maintenant, qui court après la voiture, et puis sa figure qui change, qui leur fait comme une grimace. Qu'est-ce qu'elle leur veut? Et Marie regarde presque effrayée. Elle grimace toujours. Ah, c'est qu'elle pleure! Ses pauvres traits se contractent tout à fait, et voici les larmes qui coulent. Elles se comprennent maintenant toutes les deux. « Pour l'amour de Dieu, faites arrêter la voiture, monsieur, » dit Marie à un Islandais qui est assis près d'elle et qui a compris lui aussi, car il passe son bras au travers du petit carreau de devant et tire le conducteur par sa manche. La voiture s'arrête. La grand-mère, qui a toujours couru, est là derrière à toucher le marchepied. Elle leur tend les mains et sa figure est toute baignée de larmes. Marie est descendue, et la vieille femme, la serrant dans ses bras, l'embrassant, embrassant Petit Pierre. « Oh, ma chère fille, que le bon Dieu t'accompagne !» Et elle pleure à sanglots. « Voyez-vous, ma fille, avec Yves il faut être très douce, le prendre par le cœur. Vous verrez que vous pourrez être heureuse avec lui. Moi, j'ai peut-être trop montré les gros yeux à son pauvre père. Dieu vous bénisse, ma chère fille !» Et les voilà unis dans le même amour pour Yves, et pleurant ensemble. « Allons, les femmes !» crie le conducteur. « Quand vous aurez fini de frotter vos museaux, il faut les arracher l'une de l'autre. » Et Marie, rassise dans son coin, regarde en s'éloignant, avec ses yeux pleins de larmes, la vieille femme qui s'est affaissée en sanglotant sur une borne, tandis que Petit Pierre, avec sa petite main potelée, lui fait adieu par la portière. 66. 1er janvier 1881. Au fond de l'arsenal de Brest, un peu avant le jour, le premier matin de l'année 1881, un lieu triste, ce fond de port. La Sèvre y était amarrée depuis une semaine. En haut, le ciel avait commencé à blanchir entre les grandes murailles de granit qui nous enfermaient. Les réverbères, très rares, donnaient dans la brume leur dernière petite lumière jaune. Et on voyait déjà des silhouettes de choses formidables qui se dessinaient, éveillant des idées de rigidité méchante. Des machines haut perchées, des ancres énormes dressant leurs pattes noires, toutes sortes de formes indécises et laides, et puis des navires désarmés, avec leurs gigantesques tournures de poisson, immobiles sur leurs chaînes, comme de gros monstres morts. Un grand silence dans ce port et un froid mortel. Il n'y a pas de solitude comparable à celle des arsenaux de la marine de guerre pendant les nuits, surtout pendant les nuits de fête. Aux approches du coup de canon de retraite, tout le monde s'enfuit comme d'un lieu pestiféré. Des milliers d'hommes sortent de partout, grouillant comme des fourmis, se hâtant vers les portes. Les derniers courent, pris d'une frayeur d'arriver trop tard et de trouver les grilles fermées. Le calme se fait. Et puis la nuit, plus personne, plus rien. De loin en loin, une ronde passe, ailée par les sentinelles, et disant tout bas les mots convenus. Et puis le peuple silencieux des rats débouche de tous les trous, prend possession des navires déserts, des chantiers vides. De garde à bord depuis la veille, je m'étais endormi très tard dans ma chambre glaciale aux murailles de fer. J'étais inquiet d'Yves, et cette nuit-là, ces chants, ces cris de matelots qui m'arrivaient de très loin, des mauvais quartiers de la ville, m'apportaient une tristesse. Marie et le petit Pierre étaient à faire leur voyage à Plouerzel en Guélo, et lui, Yves, avait voulu quand même passer cette soirée à terre dans Brest pour fêter le nouvel an avec d'anciens amis. J'aurais pu l'arrêter en le priant de rester me tenir compagnie. Mais toujours cette glace entre nous deux qui persistait. Je l'avais laissé partir. Et cette nuit du 31 décembre, c'est précisément la nuit dangereuse où il semble que tout Brest soit pris d'un vertige d'alcool. En montant sur le pont, je saluais assez tristement ce premier matin de l'année nouvelle et je commençai la promenade machinale, les 100 pas du quart, en songeant à 1000 choses passées. Surtout, je songeais beaucoup à Yves, qui était ma préoccupation présente. Depuis 15 jours, sur cette Sèvre, il me semblait voir lentement s'en aller, d'heure en heure, l'affection de ce frère simple, qui avait été longtemps mon seul vrai ami au monde. D'ailleurs, je lui en voulais durement de ne pas savoir mieux se conduire, et il me semblait que moi aussi je l'aimais moins. Un oiseau noir passa au-dessus de ma tête, jetant dans l'air un croassement lamentable. « Allons bon, » dit un matelot qui faisait dans l'obscurité sa toilette matinale à grande eau froide, « en voilà un qui nous souhaite la bonne année. Sale bête de malheur. Ah, bien, c'est signe que nous en verrons de belles. » Yves rentra à 7 heures, marchant très droit, et répondit à l'appel. Après, il vint à moi, comme de coutume, me dire bonjour. À ses yeux un peu ternis, à sa voix un peu changée, je vis bien vite qu'il n'avait pas été complètement sage. Alors je lui dis d'un ton de commandement brusque, « Yves, il ne faudra pas retourner à terre aujourd'hui. » Et puis j'affectai de parler à d'autres, ayant conscience d'avoir été trop dur et mécontent de moi-même. Midi. L'arsenal, les navires se vidaient, se faisaient déserts comme les jours de la grande fête. De partout, on voyait sortir les matelots, bien propres dans leur tenue des dimanches, s'époustant d'une main empressée, s'arrangeant les uns aux autres leur grand col bleu, et vite, d'un pas alerte, gagnant les portes, s'élançant dans Brest. Quand vint le tour de ceux de la Sèvre, Yves parut avec les autres, bien brossé, bien lavé, bien décolleté, dans ses plus beaux habits. « Yves, où vas-tu ? » Lui me regarda d'un mauvais regard que je ne lui connaissais pas et qui me défiait, et où je lisais encore la fièvre et l'égarement de l'alcool. « Je vais retrouver mes amis, dit-il, des marins de mon pays, auxquels j'ai promis et qui m'attendent. » Alors j'essayai de le raisonner, le prenant à part. Obligé de dire tout cela très vite, car le temps pressait, obligé de parler bas et de garder un air très calme, car il fallait dissimuler cette scène aux autres qui étaient là, tout près de nous. Et je sentais que je faisais fausse route, que je n'étais plus moi-même, que la patience m'abandonnait. Je parlais de ce ton qui irrite, mais qui ne persuade pas. « Oh, si, je vous jure, j'irai, » dit-il, à la fin en tremblant, les dents serrées, « à moins de me mettre au fer aujourd'hui, vous ne m'en empêcherez pas. » Et il se dégageait, me bravant en face pour la première fois de sa vie, s'en allant pour rejoindre les autres. « Au fer ? Eh bien oui, Yves, tu iras. » Et j'appelai un sergent d'armes, lui donnant tout haut l'ordre de l'y conduire. Oh, ce regard qu'il me jeta en se rendant au fer, obligé de suivre le sergent d'armes qui l'emmenait là, devant tout le monde, de descendre dans la cale avec ses beaux habits du dimanche. Il était dégrisé, assurément, car il regardait profond et ses yeux étaient clairs. Ce fut moi qui baissai la tête sous cette expression de reproche, d'étonnement douloureux et suprême, de désillusion subite et de dédain. Et puis je rentrai chez moi. Était-ce fini entre nous deux ? Je le croyais. Cette fois, je l'avais bien perdu. Avec son caractère breton, je savais qu'Yves ne reviendrait pas. Son cœur, une fois fermé, ne se rouvrirait plus. Je venais d'abuser de mon autorité contre lui, et il était de ceux qui, devant la force, se cabrent et ne cèdent plus. J'avais prié l'officier de garde de me laisser pour ce jour-là continuer le service, n'ayant pas le courage de quitter le bord, et je me promenais toujours sur ces éternelles planches. L'arsenal était désert entre ses grands murs, personne sur le pont, des chants très lointains arrivant des basses rues de Brest, et en bas, dans le poste de l'équipage, la voix des matelots de garde criant à intervalles réguliers les nombres du loto avec toujours ces mêmes plaisanteries de bord qui sont très vieilles et qui les font rire. 22, les deux fourriers à la promenade. 33, les jambes du maître coq. Et mon pauvre Yves était au-dessous d'eux, à fond de cale, dans l'obscurité, étendu sur les planches par ce grand froid, avec la boucle aux pieds. Que faire ? donner l'ordre de le mettre en liberté et de me l'envoyer, je devinais parfaitement ce qu'elle pourrait être, cette entrevue. Lui, debout, impassible, farouche, m'ôtant très respectueusement son bonnet et me bravant par son silence en détournant les yeux. Et puis, s'il refusait de venir, et il en était très capable en ce moment, alors ce refus d'obéissance, comment le sauver de là ensuite? Comment le tirer de ce gâchis que j'aurais été commettre entre nos affaires à nous et les choses aveugles de la discipline? Maintenant la nuit tombait, et il y avait près de 5 heures qui étaient offertes. Je songeais au petit Pierre et à Marie, aux bonnes gens de Toulven, qui avaient mis leur espoir en moi, et puis à un serment solennel que j'avais fait à une vieille mère de Plouerzel. Surtout, je sentais que j'aimais toujours mon pauvre Yves comme un frère. Je rentrai chez moi, et vite je me mis à lui écrire. Ce devait être le seul moyen entre nous deux. Avec nos caractères, les explications ne nous réussissaient jamais. Je me dépêchais, j'écrivais en grosses lettres pour qu'il pût lire encore. La nuit venait vite, et dans l'arsenal, la lumière est chose défendue. Et puis je dis au sergent d'armes, « Allez chercher Kermadec et amenez-le parler à l'officier de quart, ici dans ma chambre. » J'avais écrit, « Cher frère, je te pardonne et je te demande de me pardonner aussi. Tu sais bien que nous sommes frères maintenant et que malgré tout, c'est à la vie et à la mort entre nous deux. Veux-tu que tout ce que nous avons fait et dit sur le Sèvre soit oublié? Et veux-tu essayer encore une fois une grande résolution d'être sage? Je te le demande au nom de ta mère. Écris seulement oui au bas de ce papier, veux-tu? Et tout sera fini, nous n'en reparlerons plus. Pierre. » Quand Yves se présenta sans le regarder, ni attendre de réponse, je lui dis simplement, « Lis ceci que je viens d'écrire pour toi. » Et je m'en allai, le laissant seul. Lui fut vite parti, comme s'il avait eu peur de mon retour. Et dès que je l'entendis s'éloigner, je rentrai pour voir. Au bas de mon papier, en lettres encore plus grosses que les miennes, car la nuit arrivait toujours, il avait écrit « Oui, frère » et signé « Yves ». « Jean-Marie, dépêche-toi d'aller dire à Yves que je l'attends là, à terre, sur le quai. » C'était 10 minutes après. Il fallait bien se voir, après s'être écrit, pour que la réconciliation fût complète. Quand Yves arriva, il avait sa figure changée, et son bon sourire que je n'avais plus vu depuis bien longtemps. Je pris sa main, sa pauvre main de gabier, dans les miennes. Il fallait la serrer très fort pour qu'elle sentît la pression, car le travail l'avait beaucoup durci. « Aussi, pourquoi m'avez-vous fait cela? Ce n'était pas bien, allez. » Et ce fut tout ce qu'il trouva à me dire, en manière de reproche. Nous n'étions pas astreints à la garde de nuit sur cette Sèvre. « Sais-tu, Yves, nous allons passer cette soirée de premier de l'an ensemble à terre, dans Brest, et tu dîneras en face de moi, à la Bourse. Cela ne nous est jamais arrivé, cela nous amusera. Vite, va faire épousseter ton dos. » Il s'était tout sali dans la cale au fer, et allons-nous-en. Oh, mais dépêchons-nous alors. Plutôt, je m'époussetterai chez vous, dans votre chambre de terre. Le canon va tirer, nous n'aurons jamais le temps de sortir. Nous étions justement tout au fond du port, très loin des portes, et nous voilà partis, courant presque. Allons bien, le coup de canon à moitié route, et nous sommes pris. Obligés de rentrer à bord de cette Sèvre, où il fait froid et où il fait noir. Au carré, il y a un méchant fanal allumé dans une cage grillée par le pompier de ronde, et pas de feu. C'est là que nous passons notre soirée de premier de l'an, privés de dîner par notre faute, mais contents tout de même de nous être retrouvés et d'avoir fait la paix. Pourtant, quelque chose encore préoccupait Yves. Je n'ai pas pensé à vous dire cela plus tôt. Vous auriez peut-être mieux fait de me remettre au fer jusqu'à demain matin, à cause des autres, voyez-vous, qui n'auront pas trop compris. Mais, sur sa conduite à venir, il n'avait plus d'inquiétude et se sentait ce soir très fort de lui-même. D'abord, disait-il, j'ai trouvé une manière sûre. Je ne descendrai plus jamais à terre qu'avec vous quand vous m'emmènerez. Ainsi, comme ça, vous comprenez bien,